Château,
réserve,
collection,
événement,
visite,
musée,
accueil,
recherche,
exposition,
spectacle,
atelier,
archerie,
public,
inventaire,
conférence,
histoire,
numérique,
art sacré.
C'est quoi ?
Le musée !
À coulisses.
Musée de l'archerie et du Valois, bonjour.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur RVM, Radio Valois-Mussien, et nous sommes dans nos studios, place Jean-Philippe Rameau, à Crépy en Valois, avec Marie Adamski, qui est directrice adjointe et chargée des collections du musée.
Bonjour.
Et puis on a aussi Manuela Dominguez, qui est chargée de la documentation des œuvres du musée. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Voilà, alors vous venez d'écouter un nouveau générique, tout neuf, tout nouveau pour l'année 2024. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller visiter ce musée si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je rappelle à nos auditeurs que ce musée de l'Archerie et du Valois est situé rue Gustave Chopinet. Voilà, ben c'est un monument historique, unique, entre Paris et Compiègne, et labellisé Musée de France, alors n'hésitez pas. En ce moment, le musée est fermé, ça ferme au mois de novembre et ça rouvre au mois de mars, Marie.
Oui, c'est ça, on ferme tous les ans entre le 11 novembre et fin mars. Alors pour diverses raisons, pour le public parce qu'il commence à faire frais dans les salles, et pour nous en fait c'est un temps où on continue à travailler en sous-marin, en coulisses justement, pour préparer la nouvelle saison, et c'est un peu de tout ça dont on va vous parler aujourd'hui.
Très bien, alors donc dans ces coulisses au mois de mars, qu'est-ce qu'il s'y passe avant l'ouverture ?
Alors, aujourd'hui, on va vous parler de ce que fait le service des collections au musée. Il y a un grand événement et puis plusieurs qui se préparent en parallèle. Le grand événement pour nous, c'est la fin du chantier des collections. On vous en a rapidement parlé.
On avait fait une émission
spéciale.
Voilà, on a
fait plusieurs émissions. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus précisément. Emmanuela, elle va vous parler de tout ce qui concerne la régie des collections. Alors, c'est un peu particulier, mais voilà, ça nous permet de rayonner tout au long de l'année hors de nos murs.
Alors, je crois que Marie, tu vas nous parler de la fin du chantier des collections, qui était l'exposition de l'année dernière.
Alors, effectivement, il y a eu une exposition qui accompagnait un chantier. Alors, ce chantier, c'était un long processus de déménagement de tous nos objets qui étaient en réserve vers de nouvelles réserves externalisées. À savoir qu'il y a quand même 9 dixièmes de nos collections qui sont en réserve. Ça représentait 7200 objets à peu près. Et que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les objets sont arrivés dans les nouvelles réserves. Il reste quelques objets à trouver leur place, on va dire. Mais voilà, on est à la toute fin de ce chantier. C'est pour ça qu'on se permet de faire un petit bilan. Ce chantier, en tant que tel, le déménagement, il a quand même pris un an et demi. Parce que c'est pas un simple déménagement comme nous on peut faire dans nos appartements ou nos maisons où on met tout en carton et on met tout dans un camion. Mais c'est aussi un projet qui s'inscrit de manière plus longue parce qu'il a fallu avoir de nouveaux locaux, les aménager, etc. Et donc ça,
pour les ranger.
Les espaces qu'on avait au musée étaient insuffisants et donc il a fallu qu'on recherche d'autres espaces en dehors du musée, alors toujours à Crépy. Ces espaces, ils n'étaient pas destinés à l'origine pour être des réserves de musée. Donc il y a quand même des règles climatiques, pour que les objets soient le mieux conservés possible. Et donc il a fallu tout aménager. Et tout ça, ça a commencé donc en 2019. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur ce projet, qu'on voit aboutir et dont on est très heureux de vous parler aujourd'hui.
C'est l'occasion aussi de nettoyer pas mal d'œuvres.
Ouais, exactement. En fait, je vous disais que c'était pas un simple déménagement. Enfin, entre le moment où l'objet est prélevé dans les anciennes réserves et qu'il arrive ensuite quelques semaines plus tard dans les nouvelles réserves, il a passé toute une chaîne opératoire entre les mains de plusieurs personnes pour pouvoir être sûr, un, qu'il était assez résistant pour supporter le transport, qu'il n'était pas infesté, qu'il n'était pas moisi, voilà, qu'il pouvait intégrer les nouvelles réserves en étant sain, puisque le but, c'est que dans ces nouvelles réserves, évidemment, les objets soient le mieux conservés possible et qu'il n'y ait pas d'infestation ensuite. Donc toutes ces étapes, c'est quoi ? On prélève d'abord les objets sur les anciens rayonnages. Chaque objet reçoit un numéro qui lui est propre. pour pouvoir le suivre tout au long du chantier. Ils sont inspectés, donc, je vous l'ai dit, pour voir s'ils ont des fragilités, s'ils sont infestés par les insectes ou par les moisissures, auquel cas ils sont traités avant d'être déplacés. Ils sont tous dépoussiérés, c'est l'occasion de faire un grand ménage. Ils sont photographiés, donc c'est des photographies de travail, qui nous permet ensuite de les identifier tous. Ils sont emballés, donc là, chacun a des emballages spécifiques qui correspondent à leur fragilité, à leurs matériaux. Ils sont transportés. Il faut savoir qu'on a fait 18 jours de trajet, enfin, d'aller-retour pour ce chantier. Et puis, une fois qu'ils sont en réserve, évidemment, ils sont déballés. Et là, il faut leur trouver une place. Donc là, c'est un vrai Tetris. Parce que quand bien même, les nouvelles réserves sont beaucoup plus grandes.
Tu sais combien de mètres carrés dans cette nouvelle réserve ?
Alors, j'oublie tout le temps le métrage, mais on a multiplié par 4, je crois, au moins, l'espace. Et du coup, il faut réfléchir à certaines astuces pour le ranger au mieux.
Et puis, pour bien retrouver les
Et pour bien retrouver, identifier, etc. Une fois voilà, qu'ils ont trouvé leur place... Bah, la chaîne opératoire est terminée. On met à jour la base de données qui a été créée pour l'occasion, puisque enfin, grâce à cette base de données, on sait à chaque instant où est-ce qu'il est, entre les mains de qui il est passé, et où est-ce qu'il est rangé. C'est quand même intéressant pour nous, au final, de savoir voilà, où chaque objet est placé dans les nouvelles réserves pour les retrouver au mieux.
Et cette base de données peut servir à des chercheurs.
Elle ne sera pas accessible à des personnes extérieures. Par contre, effectivement, si des chercheurs nous disent, bah, voilà, bah, là, c'est le cas dans les prochains mois, un chercheur veut venir étudier les flèches en particulier. Donc nous, bah, ça va nous servir à faire une extraction en fait, de cette base de données, rechercher uniquement les flèches et vont pouvoir lui sortir les flèches qui l'intéressent. Et c'est aussi l'intérêt de ces nouvelles réserves, c'est qu'on a gagné en espace de rangement, mais aussi en espace d'accueil. On va pouvoir effectivement accueillir des chercheurs ou des restaurateurs qui travaillent sur les œuvres directement dans les réserves, ce qui n'était absolument pas le cas jusque-là.
Très bien. Donc, il y a eu combien de personnes qui ont travaillé sur ce chantier ?
Donc, toute l'équipe du musée a globalement été mobilisée. On est 6. Ensuite, on a été aidé par une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du projet, pas seulement le chantier des collections, mais dès l'aménagement des réserves. Eux, ils sont 4. Et ensuite, l'équipe du chantier en tant que telle, parce qu'on a recruté des gens pour suivre toute cette chaîne opératoire des objets, eux, ils étaient 10. Donc, ça fait 20 personnes, quasiment.
Oui, oui.
Voilà, pendant... un an et demi pour le chantier, et puis un peu plus si on prend en compte les travaux d'aménagement. Donc c'est vraiment...
C'était la première fois que vous faisiez ça ?
Oui, et puis je pense qu'on ne le refera pas de sitôt.
c'est
vraiment un projet
laborieux.
Très important pour un musée, qui est rare, donc c'est une chance de l'avoir vécu. Toutes les personnes qui ont pu intervenir avaient des spécialités différentes, donc ça a vraiment été un travail complémentaire. Avec des métiers différents aussi. Bah, c'était un réel investissement humain, mais aussi financier de la part de la ville. On a été extrêmement... on a la chance d'être soutenus. Ça représente quand même, si on prend toutes les opérations bout à bout, quasiment 400 000 euros. Donc c'est énorme pour quelque chose qui, globalement, ne se voit pas.
Voilà,
c'est un investissement sur quelque chose... non visible. Et politiquement, c'est quand même assez rare d'avoir ce type d'investissement. Donc voilà, on les remercie beaucoup parce que c'était très important pour la conservation des objets. Ça va permettre à terme de faire des économies aussi parce que les objets seront mieux conservés. Donc il y aura moins d'interventions de restauration, par exemple. C'est vraiment un gain pour les objets, pour les équipes, pour le travail sur place. Donc c'est vraiment un projet qu'on est heureuse de voir aboutir. Là, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a effectivement 9 dixièmes des œuvres qui sont en réserve. À l'occasion de chaque exposition, on ressort évidemment des objets. C'est l'occasion de mettre en valeur justement des objets qui ne sont pas présentés d'habitude. On l'a fait par exemple pour la dernière exposition d'art sacré sur l'habit fait-il le moine, où dans un parcours d'exposition, on ne peut présenter qu'un seul ensemble de vêtements liturgiques. Bon là, il y en avait beaucoup plus et ça mettait en valeur ce fond qui était assez méconnu. Chaque exposition donne l'occasion effectivement de faire des rotations d'œuvres et puis de présenter au public des objets qu'ils ne voient pas d'habitude.
Et quand vous sortez donc de ces archives des œuvres, est-ce qu'il faut les revisiter ?
Oui, dans les réserves, un des principes de rangement, c'est que... Alors déjà, toutes les œuvres qui ont été infestées dans leur vie et qui sont plus susceptibles de re-attraper des insectes, etc., elles ont été identifiées avec une étiquette de couleur rouge. Et donc, elles, on sait qu'il faut être particulièrement attentive. et elles sont généralement laissées visibles, donc elles ne sont pas emballées dans des caisses ou quoi que ce soit. Elles sont... On peut faire un contrôle visuel régulier et voir si, par exemple, il y a de la sciure qui est tombée, qui sont des indices d'infestation. Et donc, effectivement, ces nouvelles réserves, le fait d'avoir plus d'espace permet également d'étaler mieux les objets et d'identifier plus rapidement s'il y a une reprise d'infestation ou une apparition d'infestation, de moisissure. Et donc, effectivement, régulièrement, on fait ce qu'on appelle une veille sanitaire. Et donc, on fait une tournée, quoi. Enfin, voilà, on vérifie si tous les objets vont bien. Et effectivement, avant chaque déplacement, sortie ou entrée, on vérifie ça aussi. Et si ce n'est pas le cas, on a une petite pièce maintenant qu'on appelle une salle de quarantaine où on peut isoler les objets qui sont suspects, on va dire, jusqu'à ce qu'ils soient...
Non suspects.
Non suspects, voilà. Soit que quelqu'un dise, bah non, c'est bon, ils ne sont pas infestés, ou effectivement, ils sont infestés, mais qu'ils soient traités avant de réintégrer la réserve ou un parcours d'exposition.
Bon, en tout cas, merci Marie pour toutes ces informations, c'est très intéressant. C'est dans les coulisses du musée, il s'y passe vraiment beaucoup de choses pendant que le musée n'est pas ouvert. Alors Manuela, raconte-nous, toi tu fais des prêts d'œuvres et des prêts de matériel, alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors tout à fait, déjà il faut savoir que le musée est très régulièrement sollicité de manière générale par d'autres musées ou d'autres structures pour des prêts d'œuvres, donc des musées qui font des expositions sur des thématiques qui sont très présentes dans nos locaux, et donc à ce moment-là ils nous demandent effectivement s'ils peuvent emprunter des œuvres. Donc ça, c'est vrai que ça nous permet d'avoir une visite hors les murs qui est assez intéressante, que ce soit en région ou plus largement en France. Et effectivement, ça fait partie des coulisses du musée, parce que ce sont des démarches qu'on ne voit pas forcément. Si on va dans le musée qui est emprunté, effectivement, on va découvrir notre œuvre, mais on ne se rend pas forcément compte de tout le travail que ça demande en amont pour permettre ce prêt, parce que, bien évidemment, il y a un certain nombre de règles à respecter. On ne peut pas sortir ou prêter des objets comme ça. Ça demande tout un tas de démarches. Et donc, effectivement, en cette année 2024 de Jeux Olympiques, on est particulièrement sollicité. Donc, on va... Voilà,
et par qui ?
Alors, par tout type de structure, ça peut être aussi bien des musées que des compagnies d'art, que des communes, parce qu'effectivement, la thématique du sport, cette année, elle est présente partout, que ce soit par rapport aux villes qui sont labellisées terres de jeu, des musées qui ont des thématiques sur le sport, pas forcément sur l'archerie, plus largement sur le sport. Donc, c'est vrai que cette année, la sollicitation, elle est particulièrement importante et elle s'est faite assez tôt et continue de se faire, puisque tous les mois, continue de recevoir des demandes par rapport à ça. Ça nous demande un travail en coulisses, en amont, qui est assez conséquent, surtout cette année.
Est-ce que tu as un exemple de prêt d'œuvre que vous avez récemment
Tout à fait. Alors, déjà, l'année dernière, on a participé à une exposition de grande ampleur qui s'est déroulée à Chalon-sur-Saône, qui s'appelait Le Noble Jeu de l'Arc, qui a constitué l'un des plus importants prêts qu'on ait jamais fait, puisqu'on a fait partir plus de 50 œuvres dans ce musée. Donc ça a demandé effectivement un gros travail administratif, de logistique, d'installation. Donc ça a été effectivement l'un des gros projets d'exposition de nos collections hors les murs l'année dernière. Et puis cette année, eh bien, ça repart avec d'autres projets, notamment un projet effectivement avec le musée des Tumulus de Bougon, qui se trouve près de Poitiers, où là on va prêter une vingtaine d'œuvres sur une thématique qui est plus dirigée vers l'arc au temps de la préhistoire. Et donc effectivement, ça va être aussi un prêt assez conséquent qu'on va prévoir cette année. Donc il n'y a pas que le sport, effectivement c'est plus présent, mais pas que. Il y a aussi des musées qui continuent à faire des expositions sur la préhistoire, sur l'archerie, sur différentes thématiques qui peuvent nous concerner. Et donc à ce moment-là, on essaye d'être présent pour leur apporter notre soutien dans ces projets-là et puis diffuser nos œuvres en dehors des frontières des Hauts-de-France.
Marie ?
Oui, j'ai juste un petit mot à dire. Actuellement, on est fermé, mais il y a 3 de nos œuvres qui sont visibles à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, pour l'exposition qui s'appelle « Mode et sport d'un podium à l'autre ». Et donc, on a prêté 3 gravures d'archères anglaises du 19e. Et donc, effectivement, on les voit dans leur tenue, robe 19e. Voilà, donc on vous invite à aller voir cette exposition qui est très, très chouette.
Et à Paris, c'est pas très loin.
C'est pas très loin, voilà.
C'est un beau musée aussi. Manuela, est-ce qu'il reste encore des œuvres au musée?
Ah oui, bien sûr. Comme Marie l'a dit, déjà, on a quand même...
On a du stock.
Voilà, on a beaucoup d'œuvres qui se trouvent en réserve. Et justement, pour le coup, les prêts extérieurs hors les murs nous permettent aussi de montrer ça. Parce qu'il peut y avoir une certaine frustration parfois des visiteurs qui se disent « Il y a encore tellement de trésors en réserve qu'on ne peut pas voir, même si effectivement, nous, dans nos expositions permanentes, il y a des roulements. Mmh. » Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'œuvres en réserve. Et l'avantage aussi de ces prêts, outre les collaborations très riches que ça peut nous permettre avec des structures extérieures, bah c'est aussi de faire sortir encore plus ces objets des réserves et donc de montrer encore davantage la richesse de nos fonds. Donc ça, c'est vrai que c'est très enrichissant pour nous aussi de savoir que bah, ces objets-là vivent, voilà,
très
en
bien.
Dehors des murs du musée.
Bon, merci Manuela. Et le matériel, est-ce que tu... C'est quoi le matériel pour
alors,
le musée?
Alors oui, alors on a des œuvres, mais nous avons aussi du matériel que l'on peut prêter aussi à d'autres structures. Alors on a notamment des panneaux, donc ce qu'on appelle des roll-up, des panneaux mobiles, sur l'histoire de l'archerie du musée. Et ça, effectivement, c'est souvent demandé, notamment par les compagnies d'arc qui peuvent s'en servir sur des stands. Et comme ça, ça leur permet à la fois de présenter leur discipline et de renvoyer aussi vers le musée pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc il y a ce type de prêt là qui peut être effectivement demandé par tout type de structure, mais surtout des compagnies d'arc. Et puis on a aussi des communes qui peuvent s'adresser à nous, puisque tout à l'heure Marie en parlait, on a fait une exposition il y a quelque temps sur les habits liturgiques, et c'est vrai que c'était un fonds qui était assez méconnu, qui a pas mal intéressé au final, et il y a beaucoup de communes qui justement dans leurs églises avaient des vêtements liturgiques, et là il y a eu un espèce d'engouement autour de ça, et ce qui a donné lieu à la création aussi de panneaux mobiles qui étaient issus donc à la base de notre exposition, mais qui sont devenus des panneaux mobiles, donc des roll-up que l'on peut prêter. Et là encore, ce sont des panneaux qu'on peut retrouver parfois pour par exemple les journées du patrimoine dans certaines communes qui à cette occasion sortent les vêtements liturgiques de leurs églises et ont à côté de ça un support pédagogique pour expliquer aux gens voilà ce qui encore une fois des trésors cachés. Il n'y en a pas que dans les musées, il y en a un peu partout et notamment dans les églises.
Cette exposition de vêtements liturgiques, des fois on prête aussi des mannequins parce que typiquement il faut beaucoup de mannequins
pour mettre des vêtements vivants.
C'est vrai que c'est rare qu'une commune ou une paroisse ait autant de mannequins en stock, et donc c'est vrai que ça nous est arrivé de prêter des mannequins à des villes, à Thicourt notamment l'année dernière. Voilà.
Bon, en tout cas, merci mesdames du musée de l'Archerie et du Valois pour toutes ces informations. J'espère que ça a intéressé nos auditeurs. On peut rappeler que vous allez ouvrir le 23 mars, donc la prochaine émission, on parlera de tout ce qui va se passer à l'ouverture, toutes ces expositions qui sont déjà dans les tiroirs.
On va vous parler programmation la prochaine fois.
Voilà. Merci Marie, merci Manuela,
merci.
Et puis on se dit au mois prochain.
Merci Frédéric.
Au revoir.
Au revoir à tous.
C'était
le musée
à coulisses.